reçu Neymar. Voilà pour l'info, excellente matinée.
Et le retour de l'info, ce sera tout à l'heure à midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association, pardon, comme chaque jeudi matin. Cette semaine, nous nous intéressons aux conséquences sociales de la crise sanitaire avec Serge Decaillon, le président de la Fédération du Secours Populaire Français du Pas-de-Calais, qui alerte sur le risque de pénurie de denrées alimentaires à distribuer aux personnes et aux familles en situation de grande précarité. En effet, depuis le confinement, ce ne sont pas moins de 800 familles supplémentaires auprès desquelles il a fallu venir en aide. Dans cette interview, nous allons également évoquer les actions menées par la Fédération du Secours Populaire Français, comme la Journée des Oubliés des Vacances, qui a bénéficié à 3000 personnes cet été et qui s'est déroulée au parc de Bagatelle à Merlimont, ou encore les actions que mène le Secours Populaire Français à l'international.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Plus. Vous êtes le président de la Fédération du Secours Populaire Français du Pas-de-Calais. Avec vous, nous allons évoquer plusieurs sujets. On va commencer, si vous le voulez bien, par la crise sanitaire. Je vous avais interviewé pendant le confinement sur la situation. Vous m'aviez dit à ce moment-là que vous craigniez une pénurie de stocks de denrées alimentaires avec beaucoup plus de demandes à gérer. Où en est-on aujourd'hui ?
Alors tout d'abord, merci de nous accueillir à nouveau sur vos ondes, sur votre radio, et effectivement donc de continuer à nous suivre sur ce que nous menons. Alors sur la crise qui perdure, qui persiste aujourd'hui, les craintes continuent pour nous. On faisait le point d'ailleurs hier après-midi sur notre capacité. Donc on sait que grosso modo octobre on peut passer ce cap-là et novembre on commence à se poser de vraies questions sur quels seront les produits que nous pourrons distribuer. Donc c'est une vraie crainte, c'est d'être en rupture de produits, alors de produits de base pour être très clair, c'est-à-dire que c'est des produits comme les pâtes, le riz, des céréales ou de la viande, donc qui sont aujourd'hui des produits qui risqueraient de nous faire défaut puisqu'on a pris énormément de retard au niveau administratif dans tout ce qui est national et donc européen par rapport à l'approvisionnement des produits, puisque la seule garantie que nous ayons, c'est qu'on commencerait à recevoir du lait au mois d'octobre. Voilà, c'est le seul produit que nous serions en capacité de distribuer si les choses ne bougent pas d'ici là.
Alors comment se sentent aujourd'hui les bénévoles qui ont œuvré sans relâche pendant le confinement ?
Alors il y a deux aspects. Il y a d'abord la fierté, vraiment d'un engagement au sein de l'association, qui ont eu des résultats qui ont été cohérents avec ce que l'association a toujours voulu faire. Dans les périodes les plus difficiles, c'est là où les bénévoles du Secours Populaire montrent leur qu'ils sont effectifs sur le terrain et leur engagement qui est réel. Et le deuxième point qui est vers où on va et surtout quelles seront les contraintes supplémentaires qui nous seront imposées au fur et à mesure. On peut l'imaginer que aujourd'hui, alors on comprend les obligations de protection, mais ce qui rend plus difficile l'exercice du bénévolat, quoi, que ce soit le masque, la distanciation, la relation qui se distend au fur et à mesure du temps, quoi, donc les relations qui ont pu être créées, qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus celles qu'on a connues avec les familles que l'on aide, avec les personnes qui viennent nous rencontrer. Et c'est vrai que c'est la question que nos bénévoles aujourd'hui sont en train de se poser. On espère qu'on pourra régler rapidement donc cette situation d'épidémie de manière à ce qu'on revienne dans ce qu'on a connu avant, quoi, une vraie relation de solidarité, je dirais même d'amitié quelque part, quoi, parce que tout ce qui nous est imposé aujourd'hui fait que tout ça se distend au fur et à mesure.
Alors, le Secours populaire français lance au niveau national ce mois-ci une campagne pauvreté, précarité, afin de venir justement en aide aux plus démunis et puis de sensibiliser sur cette question la population. En France, la pauvreté et la précarité concernent 9 millions de personnes aujourd'hui. Dans le département, c'est une personne sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté, d'après l'INSEE. Est-ce que vous vous attendez, dans les semaines, les mois à venir, à une explosion de cette précarité ?
Alors, effectivement, on est dans le vif du sujet, parce que le Secours populaire a fixé depuis toujours cette campagne de pauvreté et précarité à cette époque, entre septembre et octobre, de rentrée. Alors, rentrée scolaire, bien entendu, mais rentrée d'une manière générale. Quelles vont être les obligations que nous allons avoir d'ici la fin de l'année, pendant la période hivernale? On s'y prépare à chaque fois. Cette année est encore plus compliquée par rapport à la situation qu'on vient de vivre et à celle qui nous est décrite pour l'avenir. Et il est clair qu'on a vu l'augmentation de la demande, alors non seulement pendant la période de confinement, puisque on avait pu en discuter à l'époque, c'était croissant pendant tous les mois de confinement, mais ça n'a pas décru après le confinement. Et ce qui est le pire, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, il y a tous celles et ceux qui se trouvent en situation compliquée. On entend beaucoup parler de fermeture d'entreprise, on entend beaucoup parler donc de personnes qui n'ont pas retrouvé de contrat, qu'il soit durée déterminée ou d'emploi précaire même, y compris, qui leur permettait de survivre. Donc toutes ces personnes-là ou ces familles-là, on s'imagine qu'à un moment donné, elles vont forcément venir franchir la porte du Secours populaire français. Et donc on craint le pire pour les mois qui viennent. 800 foyers en plus depuis la période de confinement. C'est pas rien dans un département comme le nôtre, et c'est surtout qu'on ne sait pas vers quoi on se tourne. 2008 avait été une première expérience où on avait vécu donc par rapport à une crise, mais qui était purement économique, donc une inflation donc de plus de 15%, même voire on avait avoisiné à un moment donné 25% d'augmentation. On peut se dire qu'aujourd'hui, on est quasiment dans le même cas de figure et peut-être pire selon ce que les mois à venir nous réservent.
Alors concrètement, comment peut-on agir de notre côté? Comment celles et ceux qui nous écoutent peuvent se mobiliser? Est-ce que, par exemple, de nouveaux bras sont les bienvenus?
Alors, bien entendu, et là, c'est un vrai domaine de réflexion. Comment aujourd'hui inclure des nouveaux bénévoles, des personnes qui ont envie d'aider, mais qui se posent plein de questions? Et comment aussi, avec nos bénévoles, qui, eux, sont sur le terrain depuis tout le temps, accepter aujourd'hui d'ouvrir, d'élargir le cercle? Donc, ce qu'on a toujours mis en avant, c'est que les protections qui sont celles qui nous sont demandées sont mises en œuvre pour tout un chacun. On a vécu une période où on aurait pu imaginer un vrai retrait, hein, une crainte de, alors à la fois des bénévoles qui étaient là depuis longtemps, mais ceux qui auraient pu justement arriver. On a vécu quand même une période où on a vu un vrai engagement, une vraie volonté de nouveaux bénévoles qui se sont mis dans nos équipes, qui ont pu renforcer nos équipes. Et je pense que de toute façon, on reste sur le même principe avec tout ce qui pourra être mis en œuvre, toutes les mesures barrières dont on parle beaucoup aujourd'hui. On pourra intégrer les nouveaux bénévoles sans aucun souci, parce que c'est aussi la survie de l'association, c'est d'avoir le nombre de bras nécessaires, et c'est aussi parce que dans des périodes difficiles comme celle-là, qui demandent un temps de travail supplémentaire, il faut effectivement renforcer les équipes. Donc c'est comme ça qu'on peut continuer à faire évoluer notre accompagnement, la solidarité via le Secours populaire français. Et c'est aussi ne pas diaboliser cette situation. Effectivement, il faut qu'on soit respectueux des gestes barrières, mais il faut aussi qu'on se dise que tous ensemble, on va arriver à passer le cap, et puis on en parlera dans quelques mois, je l'espère, comme quelque chose qui est passé.
Et concrètement, quelle forme va prendre cette campagne pauvreté-précarité ?
Alors, il est clair qu'aujourd'hui, c'est plus les dons financiers qui nous sont nécessaires. On est avec pas mal d'entreprises sur des dons matériels, et surtout, donc, comme je disais il y a quelques instants, sur des produits de première nécessité et surtout ceux qui nous permettent de gérer au long terme. On sait qu'on a des sollicitations qui, aujourd'hui, vont nous apporter des accompagnements, ce qui veut dire que ce sera à la marge. Comment on pourra, dans la période qui va arriver, sur les cas particuliers particulier que nous allons rencontrer, accompagner. Alors je cite un exemple d'accompagnement que nous avons eu grâce justement au contact avec les autorités, la préfecture et donc ce qui a été mis en œuvre pendant la période de confinement et les conséquences qui en suivaient, c'est d'avoir eu des chèques qui ont pu permettre aux personnes vraiment en grande difficulté d'aller chercher des produits que nous ne pouvions pas fournir, donc auprès de la grande distribution. Et ça, avec la préfecture, la DDCS, nous avons pu mettre en œuvre ce genre de dispositif. Ça veut dire que effectivement, quand on peut adapter nos moyens aux besoins, c'est là où c'est le plus important. Donc l'aide alimentaire de base reste notre fondamental, reste ce que l'on va mettre en œuvre, mais tout ce qui pourra être en accompagnement supplémentaire nous permettra d'aller encore plus loin par rapport à l'accompagnement des familles. Et puis je dirais que dans la période hivernale, on est sûr qu'on aura certainement des personnes qui auront des problèmes énergétiques, des problèmes donc de loyer, qui auront des problèmes. Et ça, quand on a des fonds qui nous permettent justement d'intervenir sur ces domaines-là, ben c'est encore mieux, ça permet d'aller encore plus loin sur la solidarité, l'accompagnement. Et c'est comme ça qu'on peut intervenir de manière complémentaire. Parce que l'alimentation, c'est une chose, mais avoir un toit, de l'eau et de l'électricité, c'est quand même quelque chose de primordial.
Alors, une bonne nouvelle, c'est que cet été, la journée des oubliés des vacances a pu avoir lieu, hein, le 19 août dernier. Un vrai moment de bonheur, de répit aussi, hein, pour les familles concernées. 3000 personnes au total qui ont pu bénéficier de cette journée au parc de Bagatelle, à Mermilimont, encadré par 140 bénévoles. Pour vous, il était inimaginable, hein, que cette journée n'ait pas lieu.
Oui, alors ça c'était effectivement la condition sine qua non de l'après-confinement. On s'était dit qu'on ne pouvait pas imaginer qu'une journée comme celle-là ne puisse pas se réaliser. On sait que dans nos départements, on a une vraie demande, on a un vrai besoin. Et on s'était dit que par rapport à tout ce qui avait été vécu, les mois de confinement, mais voilà, je disais il y a quelques instants la distanciation, il fallait qu'on trouve ce qui allait rassembler tout le monde, ce qui allait pouvoir permettre de vivre une vraie journée de vacances, une vraie journée de loisirs. Et sur le site qui avait été choisi avant même qu'on ne sache ce qui allait se passer, donc de Bagatelle, où on s'était dit forcément c'est quelque chose qui va apporter du bonheur, qui va apporter du plaisir aux enfants et aux familles. Et on a réussi, effectivement, et c'est un grand, grand bonheur pour nous. Et je pense que de l'avis que j'ai reçu alors des familles qui y ont participé, mais aussi de tous nos structures, comités locaux et bénévoles, le vrai moment qui était un vrai temps de partage. C'est-à-dire que masqué, on voyait le plaisir des personnes, on voyait le plaisir des enfants. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire que cette journée s'est réalisée dans les meilleures conditions possibles. Et je salue d'ailleurs l'adaptation du parc de Bagatelle, à ce qu'on ait pu être dans des conditions qui ont été extrêmes et qu'on a pu mener ensemble, justement, y compris avec la sous-préfecture. Je pense qu'aussi il faut dire qu'on est accompagné par les services du gouvernement, donc la sous-préfecture en l'occurrence, qui nous ont permis de réaliser cette journée. Ça, c'était important parce que on n'aurait pas pu imaginer conclure cette période d'été sans avoir cette journée qui prenait encore plus la source de sa nature. Les oubliés des vacances, c'est ceux qui n'ont pas pu faire autre chose avant. Et là, on réalisait véritablement l'objectif qu'on s'était fixé.
Je reste dans la période estivale, Serge Ducaillon. L'été, vous accueillez aussi des enfants de Biélorussie, de la région de Moguilev précisément, très impactés par la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Est-ce que cette année, vous avez pu les accueillir ou pas ?
Malheureusement, non. Notre volonté, qui a toujours été affichée, d'accueillir ces enfants suite à cette catastrophe, perdure. Et on s'était dit que, enfin, on avait obtenu cette année 2020 un accompagnement. Le département avait été sensible aux arguments que nous lui avions avancés et nous avait proposé de nous accompagner financièrement pour l'accueil de ses enfants. Malheureusement, vu la situation, vu les problèmes, y compris donc de transport que représentait cet accueil ici en France, nous n'avons pas pu mener à bien cette activité. Et d'autant plus que celles et ceux qui ont pu suivre l'actualité voient qu'aujourd'hui, dans ce pays, dit, il y a aussi un vrai besoin pour ces enfants, pour ces familles, mais nous, d'abord et avant tout pour ces enfants, de pouvoir changer d'air, de pouvoir être accueillis dans d'autres conditions, dans un pays comme le nôtre. Et nos familles d'accueil, elles aussi ont vécu un manque cette année, puisqu'elles sont toujours partantes pour accueillir ces enfants. Et cette année, ben, malheureusement, c'est une année blanche, c'est une année qui ne permettra pas justement de, dans notre calendrier, de dire que c'était une année probante sur l'accueil des enfants. On continue, on persiste. Pour moi, l'année prochaine sera on renouera les liens de manière à ce que les enfants biélorusses viennent en France pour l'été prochain.
On reste à l'international. Quelles sont les actions menées actuellement par le Secours populaire français au niveau international ?
Alors, nous sommes bien entendu par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui au Liban, tout ce qui se passe dans les actions à mener par rapport aux peuples qui sont aujourd'hui en déshérence, y compris par rapport à toutes les actions que nous menons ponctuellement dans des pays au niveau international, donc Afrique, Asie et y compris les pays d'Europe, Europe de l'Est. Donc, on accompagne et on attend, y compris parce que on lance des grandes campagnes justement de mobilisation sur les accompagnements, sur le fait qu'on puisse trouver des formes qui permettront d'être le mieux présent, le plus efficace possible sur ces pays qui sont quelque part en manque aujourd'hui, alors à la fois sur l'aide alimentaire bien entendu, mais sur d'autres problèmes. Et je voudrais y compris souligner le fait qu'aujourd'hui on reparle quand même beaucoup des migrants et il faut qu'on puisse être effectivement à pied d'œuvre sur l'accompagnement de toutes ces familles qui, au désespoir, dans la situation dans laquelle elles vivent, sont en train de regarder comment elles pourraient vivre autrement ailleurs, de les accueillir dans de bonnes conditions, parce que c'est aussi, je pense, un droit et un devoir pour nous d'accueillir et d'accompagner des familles qui fuient des perspectives, malheureusement pour elles, qui sont mortifères. Donc on continue, nous, notre action dans ces domaines-là. L'un ne va pas sans l'autre, et l'un n'est pas aux dépens de l'autre, et ça c'est le plus important, c'est que ça n'empêchera pas au Secours populaire français de mener des actions pour les uns et pour les autres, parce que justement on se donne les moyens de les mener toutes ensemble.
Alors justement, Serge de Caillon, quelles sont vos priorités pour les semaines et les mois à venir au niveau du Secours populaire ?
Alors forcément, nos priorités, c'est d'imaginer ce que va être la période hivernale. Donc c'est de se dire que tout ce qui va pouvoir permettre d'accompagner nos familles et celles qui viendront nous trouver ensuite, parce que c'est ce que je viens de dire, en fait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et on est là pour aider celles et ceux qui auront besoin de nous. C'est d'engranger un maximum de moyens, donc pour la campagne de pauvreté et précarité, pour Noël, bien entendu, parce que nous souhaitons organiser comme nous l'avons toujours fait avec notre Père Noël Vert, une campagne de Noël, c'est de trouver ces moyens-là, d'être accompagnés, renforcés, on vient de le dire, par des personnes qui auraient envie de s'investir pour qu'on puisse passer cette période hivernale. Et quand je dis période hivernale, bon, c'est grosso modo jusqu'au printemps prochain, c'est avant mars prochain. Que va-t-on faire ? Comment va-t-on gérer cette situation ? C'est tous ensemble qu'on y trouvera les solutions.
Alors vous venez de l'évoquer, hein, l'an dernier lors d'une après-midi festive à Lens, hein, 700 enfants avaient pu participer à l'opération du Père Noël Vert. Est-ce que vous avez justement des craintes pour l'organisation de la manifestation cette année ? Et j'imagine que vous songez déjà à toutes les options possibles, hein, pour la maintenir.
Alors effectivement, donc le chiffre d'enfants que vous venez de citer, 700 enfants, mais en général on est autour de 1500 personnes, parce que les enfants ne viennent pas sans leurs parents sur ce genre de manifestation. Ça renforce les craintes et les soucis d'organisation. On sait aujourd'hui les barrières qui nous sont mises. Quand on parle de 100 personnes dans un même lieu au même moment, on peut pas imaginer, nous, organiser des périodes où on aurait des séquences de 100 personnes, vu le nombre d'enfants auxquels on doit pouvoir répondre. On est effectivement dans une réflexion d'étalement de cette période de Noël. Comment pourra-t-on, avec des accompagnements, on n'a pas encore lancé l'appel, mais il devrait être fait très rapidement avec nos partenaires, de manière à ce qu'on puisse se dire quels seront les lieux qui pourront accueillir un maximum d'enfants, un maximum de familles, mais aussi comment on va organiser. Parce que je rappelle que d'abord et avant tout, cette fête de Noël, elle existe grâce aux forains qui nous ont toujours accompagnés, grâce au tour de manège qu'on peut faire aux enfants. Donc c'est aussi suspendu à cette question. Est-ce que cette foire au manège de Lens pourra cette année être réalisée? Donc on a encore cette interrogation. Et si elle peut se faire, comment pourrons-nous, nous, adapter nos besoins, effectivement, à ce que les forains pourront nous apporter? Et y compris parce qu'on n'est pas que sur les tours de manège et on est en train de réfléchir à ce que nous allons pouvoir apporter à ces familles, à ces enfants surtout, dans cette période qui doit être festive d'abord et avant tout, qui doit être insouciante aussi. Encore une fois, c'est pas le mot insouciance qui doit être le plus formel, c'est celui qui dit que on doit vivre des moments quand même de joie et de bonheur, même si on est dans une période difficile, en respectant encore une fois tout ce qui nous est demandé en gestes barrières. Mais il faut absolument qu'on s'investisse pour que ce Noël soit un vrai Noël, pour que les enfants vivent une période de Noël avec leurs parents et aient du bonheur à cette époque-là. Et donc, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Pour terminer, Serge Decaillon, comment peut-on se renseigner auprès du Secours populaire français de la Fédération du Pas-de-Calais?
Alors forcément, en s'adressant au siège départemental à Arras, hein, donc soit au 38 rue Baudimont pour celles et ceux qui sont sur le secteur, soit en téléphonant au siège au 03 21 71 43 19, donc qui est le numéro du standard. En envoyant bien entendu des mails hein, sur notre boîte contact @spf62.org ou en allant sur le site du Secours populaire français en se proposant comme bénévole ou en faisant des dons, puisqu'aujourd'hui les dons en ligne sont possibles. Donc sans aucun problème, on peut être accompagné de différentes manières par toutes celles et ceux qui ont envie de faire quelque chose dans cette période hyper compliquée, mais qui de toute façon pour moi est un passage et qui fera aussi que après, quand on aura pu se poser, après qu'on aura vécu cette période, fera que celles et ceux qui auront participé seront aussi comptables de tout ce qui aura été fait avant et pourront continuer à s'engager bénévolement et à s'engager pour que le Secours populaire puisse continuer à faire ses actions de solidarité.
Bien, merci beaucoup Serge Decaillon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération du Secours populaire français du Pas-de-Calais.
Je voulais juste ajouter une chose. Je vous remercie, Radio Plus, parce que nous avions prévu de faire une fête départementale qui n'a pas pu se faire par rapport aux conditions que nous avons vécues. Fête qui se voulait dans le même état d'esprit, rassembler le plus grand nombre de personnes pour aider le Secours populaire à mener ses actions, mais aussi pour avoir un temps d'échange, un temps de rencontre, un temps avec y compris des vedettes ou des personnalités du monde du spectacle qui nous accompagnaient, aider les intermittents du spectacle parce que c'était important de les aider dans cette période difficile. Nous n'avons pas pu la réaliser, vous étiez prévu comme partenaire, donc je voulais vous remercier sincèrement et dire que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre accompagnement et bien entendu à celles et ceux qui autour de nous sont partie prenante que nous pouvons réaliser. Ça n'est que partie remise parce que on continue, on persiste et je donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui le voudront bien l'année prochaine, au printemps, pour qu'on puisse regarder comment on va fixer une perspective d'une grande fête départementale du Secours populaire français, de la solidarité et surtout de l'après-confinement, de l'après-Covid, de l'après-période difficile qu'on aura vécue tous ensemble. Et dès à présent, je dis à toutes celles et tous ceux qui sont un petit peu en difficulté, qu'on est là pour les aider et qu'on leur souhaite dès à présent de passer une bonne fin d'année et que quand ils auront besoin de nous, on est présent.
Merci beaucoup.
Merci.
Serge Gainsbourg, accordéon. Du clavier cruel, au musicien des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Il s'est dit qu'il allait vivre, à s'asseoir quand il s'enivre. J'ai dit, vous, c'est moi, mais non. C'est l'accordéon, accordéa, accordéon. Long monde à l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme que chemise, et quand on les verbalise, ils accompagnent au violon. Sans l'accordéon, ils passent une nuit tranquille, mais au matin ils refilent un peu d'air dans les poumons. De l'accordéon. accordez, accordez, accordez donc. Donc à l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre et enfauche à son estomp. Pour l'accordéon, il emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons. Pour l'accordéon, accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par la city, il ira la solitude, se pointe à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on frappe l'attention à l'accordéon. Ah, accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Avec mon père, monsieur, dame.
Juliette Gréco à l'instant, disparue, vous le savez, à l'âge de 93 ans. C'est encore une voix de la chanson française qui s'éteint, un parcours de vie exceptionnel que je vous invite à redécouvrir. Et on passe à l'actualité associative. Le Forum national des associations et fondations devrait se tenir, je dis bien devrait se tenir le 15 octobre prochain, mais rien n'est moins sûr étant donné, vous le savez, le contexte sanitaire. Pas moins de 80 ateliers sont prévus, il y avait au départ une jauge de 4000 personnes, on imagine que cette jauge va être sérieusement réduite. Pour l'instant, on n'a pas de données sur une éventuelle annulation de l'événement. 90 exposants également sont prévus. Alors, tout avait été mis en place sur le plan sanitaire. Mais en tous les cas, pas de communication pour l'instant de l'organisation sur leur page Facebook. Donc, on attend évidemment de savoir si ce forum va bel et bien se tenir ou pas. Évidemment, on vous tient au courant dès que nous avons la réponse à cette question. Nous vous en avions parlé, notamment durant la période de confinement avec une association locale. Les plaintes pour violence conjugale ont augmenté de 36% pendant le confinement, avec les associations de lutte contre les violences qui peuvent justement aider les victimes et notamment leur faire bénéficier de l'ordonnance de protection qui a pour objectif de protéger ces victimes. Et ces associations sont évidemment en tête de ligne pour justement faire face à ces violences, vous le savez. Alors si vous souhaitez justement en savoir plus sur cette ordonnance, il y a un guide qui a été édité par le ministère de la Justice au mois de mai et que vous trouverez donc sur le site internet du gouvernement, du ministère de la Justice, www.justice.gouv.fr. Le guide s'appelle tout simplement Guide pratique de l'ordonnance de protection, un guide qui peut évidemment également servir aux associations qui font appel à ce dispositif. « 27 sénateurs ont planché 22 ce sont des sénateurs qui ont planché, alors je sais pas s'ils sont 27, j'ai cru voir ça, mais bon, non, ce sont 22 propositions de sénateurs qui ont planché donc sur des associations sportives, 22 propositions pour, je cite, affûter l'esprit d'équipe des fédérations sportives. Ce sont deux sénateurs en fait qui ont travaillé là-dessus, et non pas 27 comme je vous l'ai dit, pour, je sais pas pourquoi j'ai sorti ce chiffre, enfin bref, ce sont les sénateurs Jean-Jacques Lozac et Alain Fouché qui ont remis à leurs confrères un rapport sur le fonctionnement et l'organisation des fédérations sportives, et ils soumettent donc 22 propositions pour justement évidemment engendrer une réforme avec 4 grands axes. Le premier axe, parfaire la réforme de l'organisation du modèle sportif en consolidant l'existence d'une politique nationale du sport. Préserver ensuite, c'est le deuxième axe, l'accompagnement public des fédérations, tout en renforçant la capacité d'initiative de ces fédérations dans le respect du principe de la liberté d'association. Troisième axe, approfondir la légitimité des dirigeants des fédérations, moderniser également le statut de ces derniers afin de favoriser le renouvellement et la professionnalisation, et enfin développer les bonnes pratiques des fédérations en matière de transparence financière afin d'accroître leur légitimité et de promouvoir l'autonomie financière du sport grâce aux revenus qu'il peut générer. Donc c'est un rapport que vous pouvez retrouver sur le site du Sénat. Le site, c'est sénat.fr. Rapport donc sur le fonctionnement et l'organisation des fédérations sportives.
Radio Plus, la radio. La radio de toutes les générations. Radio Plus, Radio Plus. La radio, pas comme les autres.
Radio Plus.
Radio Plus.
Radio Plus.
essayer avant.
Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. C'est ainsi.
Allons-en, allons-en.
Pascal Obispo sur Radio Plus à 9h passées de 42 minutes. On poursuit l'actualité associative avec des formations qui vous sont proposées par la Maison des associations de Roubaix. Alors notamment le samedi 26 septembre, mener un projet de solidarité internationale. Le mardi 29 septembre, une formation sur le mécénat. Le samedi 3 octobre, construire l'emploi associatif, le profil de poste. Et c'est également une formation qui est là en deux parties. Hein, elle débute le samedi 3 octobre, mais se poursuit également le samedi 10 octobre. Autre formation proposée, faire un bilan d'action le mardi 6 octobre prochain. Les principes fondamentaux de la loi de 1901 le 20 octobre prochain. Et puis l'évolution du monde associatif et ses relations avec les pouvoirs publics le mardi 20 octobre. Alors si vous voulez plus de renseignements et si vous souhaitez vous inscrire, eh bien vous pouvez envoyer un mail à M Tetlin. Alors ça s'écrit MTETELIN@mdaroubaix.org, mdaroubaix tout collé et en minuscule. Le saviez-vous, une association peut tout à fait embaucher un jeune apprenti si elle déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage. Il y a bien sûr un certain nombre de conditions à réunir. L'association doit être garante de la qualité de la formation en veillant à la qualité de l'équipement, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, ainsi évidemment qu'à la nature de l'enseignement dispensé. Il faut que l'association se munisse d'un formulaire, hein, c'est le formulaire CERFA numéro 10103 qu'elle doit remplir et signer avec évidemment l'apprenti et son représentant légal si celui-ci est mineur. D'autres actus associatives avant la fin de cette émission, après cette petite pause en compagnie de Claude François. Arrivait cette année-là. Oh. À l'instant, c'était Claude François hein, sur Radio Plus. Alors c'est marrant, comme parfois les textes de chansons peuvent résonner aujourd'hui. Claude François qui parle du Spoutnik dans sa chanson. Un Spoutnik qui a du mal à décoller, c'est le vaccin russe, hein, je crois. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va parler des ateliers jardins qui sont organisés à la Maison des Projets de Lens et qui vont se dérouler le 7 octobre prochain à 15h et également le 21 octobre prochain. Alors c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous. Si vous avez évidemment compétences en jardinage ou si vous voulez vous y mettre et que vous avez quelques difficultés, eh bien cet atelier va vous permettre d'apprendre à jardiner, à construire des bacs potagers, à planter des fruitiers, etc. pour aménager les espaces extérieurs de la maison des projets et créer des lieux de rencontre et de partage. Alors si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pouvez vous inscrire au 09 72 74 68 09 72 74 68 ou bien aller directement par message privé sur Facebook, sur le Facebook de la page Maison des Projets. Donc c'est à Lens et c'est au 1 rue Georges Bernanos. C'est organisé notamment par l'association Porte-Mine. Et d'ailleurs, l'association Porte-Mine vous propose un autre événement, un atelier sérigraphie avec Bertrand Fashion. Donc ça, ce sera le 30 septembre de 15h à 17h, toujours à la Maison des Projets 1 rue Georges Bernanos à Lens. Inscription au 09 72 74 68 09 72 74 68. La Maison des Associations de Lille vous propose de participer au Trophée de l'Engagement 2020. Cette année, la cérémonie aura pour but de mettre à l'honneur des personnalités qui se sont investis lors de la crise sanitaire. Si vous souhaitez justement récompenser un bénévole de votre association, mettre en lumière une personne qui s'est investie, eh bien, vous pouvez évidemment proposer une candidature avant le vendredi 16 octobre. Le formulaire est téléchargeable sur la page Facebook de la Maison des Associations de Lille.
Couper mes ailes. j'en ai tu me ferais avant de dire je t'aime, que le piège se referme. Ce jeu et de mes énigmes, disparaître à ses yeux, ne plus donner signe avant de ne plus pouvoir revenir à l'arrière,
avant qu'il soit trop tard pour éviter la guerre.
Savoir partir quand même.
Françoise Hardy en duo avec Julio Iglesias, partir quand même sur Radio Plus. Et il est temps pour moi de partir effectivement avant de vous retrouver tout à l'heure à 11h dans Savoir Plus. Je vous souhaite évidemment une très bonne matinée à l'écoute de Radio Plus. Dans quelques instants, c'est Microscope que vous allez retrouver, le magazine des radios associatives du nord de la France. Très bonne matinée à toutes et à tous. Si.